un podcast France Culture.
Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
Chez nous, l'histoire commence avec une feuille de vigne qui est en réalité une feuille de figuier. Adam et Ève sont dans le jardin, tranquilles, et voilà qu'après avoir mangé un fruit défendu, ils découvrent leur nudité. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des pagnes. Finit donc la belle vie, la simple vie, c'est la naissance de la pudeur, de la honte, des humiliations liées à la nudité et accessoirement des vêtements. Avant ça, en Grèce notamment et à Rome aussi, on sculptait pas mal de corps nus, on aimait bien, mais c'est pas non plus comme si Alexandre se baladait tout nu. Par la suite, on continue à représenter des corps nus, mais cet état reste un tabou social, culturel, anthropologique, une arme politique, comme les fémènes qui montrent leur sein. Une provocation, une transgression. Quelques rares mouvements naturistes d'inspiration hygiéno-libertaire existent dans les pays d'Europe du Nord particulièrement. Des camps de vacances, des plages, des espaces de liberté leur sont réservés, même si certains se sentent parqués. En parallèle, des études anthropologiques montrent que la nudité totale ou partielle pour les hommes et les femmes est toujours très commune pour certains peuples. Les Mursi, peuple semi-nomade d'Éthiopie, vivent ainsi nus ou semi-nus. Les Chinegu au Brésil vivent nus eux aussi, tout comme les Kuarup pendant certaines cérémonies, enfin ceux qui ont survécu. Mais dans le reste du monde, la plus grande partie, il faut bien dire, comme par exemple en Iran et en Afghanistan au hasard, vivre nu, ça ne se fait pas du tout. Déjà, les hommes et les femmes montrent à peine leurs jambes ou leurs bras, alors le reste, même pas en rêve. Tout de suite cependant, dans les pieds sur terre, voici deux rebelles et le fils d'un rebelle qui vivent dans le simple appareil d'une beauté qu'on arrache au sommeil. Comme disait Racine, qui était loin d'être naturiste, il raconte ce qui leur est arrivé au micro d'Alain Lefkovitch.
Je m'appelle Christophe, je suis fonctionnaire de police et j'ai 52 ans. Alors, je suis tombé dans le naturisme par hasard, c'est-à-dire que une fois je suis tombé sur une plage naturiste, tous les gens étaient nus, je me suis dit je vais tenter le coup, et ça m'a plu. Depuis, quand je vais à la plage, je ne pouvais plus porter de maillot de bain. Et depuis, eh ben, j'ai adopté ce mode de vie. Je vis nu chez moi. En 2017, j'habitais dans un appartement. De temps en temps, il m'arrivait de sortir sur mon balcon. Et des voisins ont déposé plainte contre moi parce qu'ils m'auraient vu nu sur ce balcon. Il y a eu une enquête de gendarmerie. Ils ont constaté qu'il y avait une canisse sur mon balcon et qu'on ne pouvait pas me voir. Toujours est-il que je suis passé au tribunal. J'ai été condamné à 3 mois de prison avec sursis. Étant fonctionnaire de police, j'ai eu également une sanction administrative. J'ai été mis à pied pendant 3 mois, sans salaire, pour manque d'exemplarité atteint au crédit et au renom de la police nationale. Donc je porte atteinte à la police nationale, malgré mes bons et loyaux services. Ils m'ont dit, votre façon de vivre ne nous intéresse pas, ce que vous avez fait là, c'est de l'exhibition sexuelle, puisque vous vous êtes montré, j'insiste bien sur le mot, vous vous êtes montré nu. Fallait prendre les dispositions pour ne pas être vu. Vous mettez quelque chose, voilà. Pendant ces 3 mois, j'ai fait une dépression. J'ai été suivi par un psychiatre, par mon médecin traitant, et je me suis senti un peu inutile. Heureusement que j'ai eu des spécialistes qui m'ont aidé, qui m'ont soutenu. Grâce à eux, j'ai réussi à m'en sortir. Parce qu'ils ont réussi à me faire comprendre que je n'ai rien fait de mal. Pour m'en sortir financièrement, j'avais aucun moyen, puisque c'était mon seul revenu, mon salaire. Donc ça a été très très dur. Et quand j'ai repris le travail, ça a encore été plus dur parce que mes collègues n'ont pas été tendres avec moi. Ils m'ont pas fait la remarque personnellement, mais il y a eu des regards, des insinuations. Les collègues ont mis leur distance vis-à-vis de moi, les femmes me regardaient différemment, j'étais le gros pervers. Mais moi, bien au contraire, je ne suis pas un prédateur, les femmes je les respecte. Vis-à-vis de la gente féminine, je suis plutôt timide. Je suis resté toujours au même poste, sauf que au conseil de discipline, la condition c'était que je déménage, sinon la sanction serait plus sévère. Donc pour éviter que ça soit ébruité à l'endroit où j'habitais, on m'a demandé d'aller ailleurs, donc j'ai déménagé quelques kilomètres plus loin. J'ai trouvé une maison avec un jardin. En 2020, au mois de février, ma voisine était dans son jardin et m'a vu nu dans ma maison. Sauf qu'elle a déclaré que j'étais dans mon jardin. Elle a appelé la police, j'ai été en garde à vue, été au tribunal, et bon, ça a recommencé, c'est-à-dire que j'ai eu un procès. Étant donné que j'ai été condamné une première fois, au tribunal, ils ont supposé que la deuxième fois, ben, j'avais commis cette infraction. Alors qu'on était en mois de février, donc ils m'ont dit « Comment ça se fait que vous étiez nu en février dans votre jardin ?» Et c'est pourquoi je leur ai certifié que je n'étais pas dans mon jardin, que j'étais chez moi. Mais ils m'ont condamné à 11 mois de prison avec sursis pour motif exhibition sexuelle, en récidive et mise à l'épreuve. Alors la mise à l'épreuve consiste à voir des médecins, à indemniser la victime, et à être suivi régulièrement par un agent de probation. C'est ce que j'ai fait, et c'est ce que je fais en cours, puisque cette mise à l'épreuve doit durer 3 ans. Une dizaine de jours après l'affaire de la voisine, j'étais toujours nu chez moi, j'avais une amie, une petite amie qui m'a quitté. Elle venait de me l'annoncer, ça m'a fait mal, j'ai vidé une demi-bouteille de rhum, je ne le cache pas, j'ai mis un manteau sur moi, alors que j'étais nu, je suis sorti, j'ai pris ma voiture, et je comptais me suicider avec la voiture. Or, je me suis fait arrêter par la police, parce que je conduisais un peu vite, et ils ont constaté que j'étais ivre. Et en me faisant souffler dans le ballon, ils ont vu que j'étais nu sous mon manteau. Alors j'ai expliqué aux policiers que je vivais nu chez moi et que je n'ai pas fait attention, que j'ai mis un manteau vite fait pour sortir, mais que j'étais quand même vêtu. Et ils m'ont dit « Oui, mais c'est pas une tenue qu'on met quand on sort ». J'ai été menotté, j'ai été mis en garde à vue, j'ai été traité pire qu'un criminel. Donc j'ai eu une condamnation pour conduite en état d'ivresse et exhibition sexuelle, en récidive, à nouveau. Je suis passé au tribunal. Mon avocat m'a demandé de plaider coupable, tout simplement parce que, aux yeux de l'administration judiciaire, de fait de l'article 222-32, le fait d'avoir été vu nu, c'est une exhibition sexuelle. Étant donné que j'ai eu les deux autres affaires, au tribunal, j'ai eu 9 mois de prison ferme, mais avec aménagement, c'est-à-dire mise d'un bracelet électronique, donc avec un système de surveillance, avec un périmètre à ne pas franchir. C'est-à-dire que moi, j'avais ma maison, mon jardin. Le fait d'être fonctionnaire de police est une circonstance aggravante. Je suis passé au conseil de discipline de la police nationale pour 2 affaires, c'est-à-dire la voisine et la voiture. Pour ces 2 faits, le conseil de discipline a rendu une décision de révocation. On vous a vu nu, si on vous a vu, c'est que vous vous êtes montré. Et c'est indigne d'un fonctionnaire de police de se montrer nu, en public. La révocation n'est pas encore prononcée, puisque c'est une décision qui est soumise au ministère de l'Intérieur. Et c'est le ministère de l'Intérieur qui prend la décision définitive. Alors, le fait d'être révoqué de la police nationale implique que je ne suis pas rémunéré, je n'ai aucun revenu, et puis je ne bénéficierai pas du chômage. Je suis à la porte, quoi. Ces jugements sont passés dans le journal local. Il y avait l'explication, il y avait mon nom, mon lieu d'habitation, en disant que je prétendais être naturiste alors que j'étais exhibitionniste. J'ai respecté toutes les contraintes que l'on m'avait demandées, 9 mois avec bracelet électronique. Actuellement, je vis nu chez moi en baissant les rideaux, pas en les baissant complètement parce que je refuse de vivre dans le noir. Et quand il fait beau, j'ouvre un peu la baie vitrée pour aérer, mais je baisse les volets de moitié. Et puis, je suis en arrêt de travail, puisque je fais l'objet de moqueries régulières au travail. C'est « Ah, voilà l'autre pervers, on me pointe du doigt, on veut plus avoir affaire à moi, le personnel féminin ne me parle plus ». Donc au quotidien, c'est difficile à supporter. Et étant donné que j'ai fait une dépression et que je suis encore fragile, je ne reprends plus le travail pour l'instant, en attendant la décision du ministère. Je pense que ma santé se remet petit à petit. Ensuite, je n'ai pas l'intention d'arrêter le naturisme, c'est ma façon de vivre. Et puis là, je suis bientôt en âge de prendre ma retraite. Je vais prendre ma retraite tranquillement, et puis la vie va suivre son cours, quoi.
Je suis Peter Misch. J'ai 67 ans aujourd'hui, ressortissant allemand. Et je vis depuis plus que 20 ans en France. J'étais dans les gares, c'était fin juillet 2018, en visite chez des amis de longue date, avec ma compagne et les 2 enfants de ma compagne. Et on est allé se baigner au Gardon. Donc on a choisi un endroit magnifique, isolé, paradisiaque. Et on s'est baigné dans le plus simple appareil. Et à un moment donné, quand on était dans le milieu des rivières, on a entendu quelqu'un qui a gueulé. On a regardé et, en effet, sur l'autre rive, il y avait un couple où la femme a gueulé contre nous. Je n'ai pas tout à fait compris qu'est-ce qu'elle a dit. Ça concernait apparemment notre nudité et parce qu'on était jusqu'en nombril dans l'eau, on a pensé que ça concerne le topless de ma compagne. On a dit, si ça vous gêne, regardez ailleurs. Et on est sorti de l'eau et on s'est installé en face d'eux. C'est bien 60 mètres, à peu près. Ma compagne a dit, mais regarde, il y a 2 gendarmes à l'autre côté. Ils ont demandé de venir sur l'autre rive. J'ai demandé des raisons, ils n'ont pas donné, donc j'ai refusé. Et ils ont cherché un canoë et ils sont venus par le canoë. En attendant, j'ai mis mon maillot de bain. Ils ont débarqué et après on a discuté. Ils ont dit, ben oui, c'est interdit. Et après une petite discussion, ils ont fait demi-tour. Ils ont dit, bon, ok, vous avez maintenant votre maillot. Ils ont fait demi-tour, ils sont partis, et pour nous, l'histoire est réglée. C'était fin juillet quand cet événement a eu lieu, et fin octobre, un dimanche après-midi, tranquille, ça frappe à la porte, j'ouvre, il y a 2 gendarmes, ils me donnent une convocation pour une audition libre, parce que j'étais accusé d'exhibitionnisme sexuel, mais ce n'était pas indiqué par qui. J'étais complètement surpris. Et les gendarmes, ils ont dit, si vous ne suivez pas la convocation, on peut vous chercher avec la force. Moi, j'ai supposé, c'est le couple qui était en face qui a déposé une plainte. Je suis allé à cette audition libre. L'agent qui était chargé avec l'audition m'a demandé une description des faits. Quand j'ai refusé, par exemple, de dire « pour moi, c'est normal de me balader nu en ville », il a dit « ben, c'est pas vous qui gérez cette audition, c'est moi ». Pendant 3 minutes, il est resté en face de moi. Il m'a regardé dans les yeux sans rien dire. J'ai dit « ben, continuez ». Encore la réponse « ben, c'est moi qui gère l'audition, c'est pas vous ». Et après, j'ai demandé de lire qu'est-ce qu'il a écrit et je ne me suis pas du tout retrouvé dans son rapport, quoi. Je me suis senti traité comme une délinquante sexuelle grave, pas à une manière où la présomption d'innocence était respectée. Donc j'ai préféré refuser de signer. Après, il a dit « voilà, maintenant on va prendre des photos et des empreintes digitales ». Ils ont dit « ben maintenant on va prélever échantillons d'ADN ». Si vous refusez, c'est un délit. Je me suis vraiment senti plutôt en Turquie ou un pays semblable qu'en France. J'étais très choqué. Mais j'étais toujours sûr que le procureur va classer l'affaire. Parce que c'est tellement absurde, cette accusation. J'ai rien à craindre. Un copain m'a recommandé une avocate. Donc, elle a regardé l'audition libre des couples qui étaient eux aussi convoqués. Et on a découvert qu'il n'avait pas de plainte qui était déposée. Mon avocate m'a expliqué que les gendarmes étaient obligés de faire un rapport. Et ce rapport passe par leur hiérarchie. Et donc, à un moment donné, c'était sur le bureau du procureur de Nîmes. Et le procureur de Nîmes a décidé de poursuivre cette affaire. Et l'avocate a ajouté, le procureur rarement décide de son propre initiative. Il a toujours un retour du parquet. Le 27 mai 2019, il a eu ce procès. J'étais tout de suite attaqué par le juge même. Il m'a été reproché d'imposer ma nudité et ma sexualité au public. Donc, j'ai donné à voir une carte satellite de cet endroit où on voit aussi la distance entre les deux rives. C'est 53,40 mètres. Si on ajoute les 2 mètres de recul à chaque rive, c'est-à-dire du couple et de moi, on arrive à presque 60 mètres. Donc, je fais un calcul. J'ai pris un champ de vision de 180 degrés et je l'ai mis en relation avec mes attributs sexuels. Et selon les calculs, ça occupe 0,01% de champ de vue. C'est-à-dire, c'est plutôt une imagination de mes attributs sexuels qu'un véritable constat de vision. J'ai dit que l'exhibition sexuelle, si je regarde dans la rousse, ça veut dire imposer à voir. C'est pas rendre visible, c'est imposer à voir. Et exhibitionnisme sexuel, ça veut dire lié à un fait sexuel. Dans le procès, mon dernier mot, j'ai dit que je demande une relaxe totale où je veux aller jusqu'au cours des droits de l'homme européens, si c'est nécessaire. Le procureur a demandé 3 mois de prison et 600 euros d'amende. Le jugement, je suis pas condamné aux prisons, mais à 600 euros d'amende. Déjà le lendemain, j'ai déposé l'appel et le cour d'appel a confirmé le jugement. maintenant, je suis inscrit dans le casier judiciaire comme délinquant sexuel. Être jugé comme un délinquant sexuel sans avoir fait le moindre geste obscène, c'est tellement absurde. Je me sens injustement sali. Je ne peux pas avaler une injustice comme ça. Donc, je veux aller jusqu'au bout. Et jusqu'au bout, ça veut dire jusqu'au cours des droits de l'homme européenne, quoi.
Je m'appelle Benoît, je suis étudiant en pharmacie en 6e année et en Master 2 à Sciences Po Paris en politique publique. J'ai 25 ans. C'est mon père qui pratique le naturisme depuis que je suis tout petit. Alors après, ça s'est particulièrement amplifié à partir du moment où j'ai eu 10, 11, 12 ans. Avant, c'était très modéré et puis il a commencé à s'engager sur la question. Il a créé une association qui soutient ce qu'il appelle le naturisme en liberté, c'est-à-dire qui soutient une idée selon laquelle les personnes auraient le droit de se mettre nues en dehors des campings naturistes. Du coup, voilà, il y a une nudité qui est présente au quotidien, parfois même, je trouve, de manière un petit peu burlesque. Par exemple, il ne va pas porter de pantalon ni de slip, mais par contre, il va porter un t-shirt. Je m'y suis fait. Déjà, de base, en fait, ma famille n'est pas spécialement pudique. Hein. Très naturellement, depuis mon enfance, il n'y a pas de souci sur ça. Que ce soit ma mère ou mon père, pourtant ma mère pratique pas le naturisme, ça peut m'arriver de l'avoir nu. Bon, pas de souci par rapport à ça. Cependant, voilà, moi je ressens pas spécialement le besoin de me montrer nu devant les gens. C'est par hasard. Ils me le demandent pas et que j'en ai pas envie, quoi. La mentalité de mon père, c'est chez moi, donc je fais ce que je veux. Et si on n'est pas content, on s'en va. Et étant donné que je suis encore étudiant et que j'ai pas les moyens, je reste. Et je l'accepte. Je dirais peut-être le seul aspect, c'est pendant que je mange à table. Je trouve ça jamais très agréable de voir un sexe. Mais bon, c'est comme ça et je le vis quand même très bien, il n'y a pas de souci. Quand on est en relation de couple, c'est un peu plus compliqué parce que ma relation la plus longue, je l'avais averti que mon père était naturiste. Sur le principe, elle n'avait pas de problème avec la nudité. Puis après, je lui ai dit, mais tu sais, c'est un naturiste qui soutient un naturisme en liberté. Donc il va faire notamment ce qu'on appelle des randonnues. Et quand j'ai dit le mot randonnue, elle a tout de suite tilté, elle a fait « Ah, c'est lui l'illuminé qui était sur W9 à faire des randonnues, on avait explosé de rire avec des amis. » Et donc du coup, c'était à ce moment-là, je dirais, bienveillant. Mon père est passé à la télé nu, il a fait 2 émissions très regardées, Thalassa et Touche pas à mon poste. Il est déjà passé aussi dans le journal de 20h de France, nu. Mais il se débrouille, je trouve, très bien. Toutes les personnes qui connaissaient de près ou de loin mon nom de famille et qui accessoirement aussi connaissaient un minimum le visage de mon père l'ont su ou l'ont vu. Ma petite copine, la première rencontre avec mon père, c'était à la fin du printemps, il faisait beau. C'était, je crois d'ailleurs, un dimanche. Et on est monté par la terrasse vu qu'il était là et là, boum, elle tombe nez à nez avec mon père nu. Bonjour, ça restera succinct, enchanté, etc. On rentre à l'intérieur, je lui dis, bon, bah, comme ça c'est fait, ah, oui, c'est bizarre, mais à ce moment-là, ça la bloque pas plus que ça. Je sais qu'après, il y a eu le repas qui l'a profondément choqué. Faut savoir que quand il se met nu, il cherche pas du tout à se cacher, hein. Donc c'est une personne qui peut écarter les jambes à table. Donc, moi qui suis habitué et qui trouve ça déjà, bof, pas très ragoûtant, imagine une personne qui n'a jamais été confrontée à ça. Ma petite copine, c'est une accumulation de choses. Et disons qu'en fait, c'est son côté de s'imposer, vu qu'il est chez lui, il fait ce qu'il veut. Ça l'a troublé, ça l'a ulcéré, et ça l'a bloqué. Elle a commencé à plus le supporter, elle ne voulait plus venir à la maison. Quand elle venait, c'était toujours tout un mélodrame, jusqu'à d'ailleurs une petite confrontation avec mon père, où elle lui a dit, bon bah voilà, vous avez un problème, et il lui a répondu tac au tac, non c'est vous qui avez un problème. Ce mode de vie, il a quand même le droit de l'exercer, et surtout il a le droit de l'exercer chez lui, ce que je peux comprendre. Mais de la manière dont il l'impose, notamment quand il y a des nouvelles personnes, je peux tout à fait comprendre ma petite copine à ce moment-là. Mais je pensais pas que ça allait la bloquer à ce point-là. C'est-à-dire que là, il y a eu un blocage carrément sur, non pas le mode de vie, mais sur la personne en elle-même. Et là, c'était terminé, en fait. C'est ce qui a miné une partie de mon couple. Je juge pas spécialement le mode de vie de mon père qui vit nu. Ce que je juge, c'est sa volonté de mettre du militantisme là où j'aimerais qu'il n'y en ait pas. Dès que je ramène autrui à la maison, j'ai ce risque soit qu'il en parle quand on est en hiver, soit qu'il soit nu quand c'est l'été. Par exemple, quand on a un engagement politique, typiquement, j'avais un formateur sur les finances publiques qui était venu manger à la maison. Et cet individu, qui est un type en plus hyper sérieux et très sympa, mange à la maison, tout se passe bien, etc. Mais je sais, de toute façon, je sais quand je fais venir quelqu'un qui va en parler. Donc du coup, il en parle. Et donc quand on sort de la maison, qu'on retourne à la formation, je lui dis, désolé pour le sujet, on ne choisit pas son père. Et lui, il me répond au tac au tac, votre père, il a un petit côté 68-art. Mais mon père, il fait abstraction de certains aspects. Comme il avance dans sa rhétorique sur le naturisme, c'est une forme aussi d'écologisme, de communion avec la nature. Lui qui, aujourd'hui, met du militantisme dans le foyer, quand c'est l'hiver et qu'il a envie de se mettre tout nu, il va mettre le chauffage à fond pour pouvoir se mettre nu. Sa cause en tant que telle, j'estime que même si c'est pas pour moi la priorité des priorités, je la trouve pas non plus néfaste. Quand quelqu'un me demande pourquoi il fait ça, j'explique son discours, je donne aussi mon opinion sur où est-ce que je fais la part des choses, et puis les gens souvent trouvent ça intéressant. Peut-être que les réponses qu'il propose ne sont pas adéquates pour beaucoup de monde dans la société, mais en tout cas les questions qu'il suscite sont elles très intéressantes. J'ai pas honte de dire que cet aspect-là de ma vie m'a influencé sur mon rapport à l'aspiration de la liberté sur plein de sujets de société.
C'était À poil, un reportage d'Alain Lefkovitch réalisé par Anne-Laure Chanel avec un coup de main de Clémence Gros et de Jean-Christophe Francis, diffusé pour la première fois en 2020. Merci à Benoît, à Christophe, à Peter Mich et à l'Association pour la promotion du naturisme en liberté. L'attaché de production des Pieds sur Terre, c'est Valentin Rémy et notre stagiaire, c'est Nour Mohamedi.
You and I know it's no country for old men. The streets that we scored on will never go back. While I play all the broken down songs, I stayed up with you. Oh, knows.